Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Les microbes sont nos amis. Ça, c'est la chose fondamentale à apprendre.
Moi, j'ai les mains sales. Je vais les laver.
RTL.
Le micro n'est rien, le terrain est tout. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche d'apprendre.
Je frotte, frotte, frotte. Je lave, lave, lave.
Nous sommes tous des microbes qui avons réussi. Ce sont des chercheurs de solutions.
Voilà, j'ai les mains.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Très belle mise en onde, André Passetta. Voyage chez les microbes, vous l'avez compris, c'est ce que l'on vous propose dans la curiosité avec notre invité Marc-André Sellos, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Notamment, vous publiez aux éditions Actes Sud « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». Et moi, ce mot « civilisation », je me suis dit, c'est fou, j'avais jamais fait le lien entre ces microbes, ces petites choses invisibles, et nos civilisations. C'est quoi le rapport ?
Ouais, y en a plusieurs, mais pour en prendre un très simple, beaucoup des aliments civilisationnels qui nous entourent, le lait, les céréales, le chou, n'étaient pas comestibles aux premiers agriculteurs ou aux premiers éleveurs qui les ont eus entre les mains. Et par contre, ils en avaient beaucoup. Et en fait, on a fermenté d'abord, on a fait du yaourt, ce qui a détoxifié le lait qui contient du lactose que nos ancêtres ne digéraient pas. On a fait du pain, ce qui a détruit un certain nombre de molécules qui retenaient les sels minéraux dans les céréales et qui faisaient que ceux qui mangeaient des céréales se déminéralisaient, ce qui n'est pas très bon pour le squelette. On a fermenté le chou en choucroute, ce qui dégradait les toxines du chou, qui à l'état sauvage était toxique. Et finalement, on a bâti nos aliments civilisationnels en s'aidant de microbes pour les rendre plus mangeables, moins toxiques. Sans eux, nous ne serions pas devenus agriculteurs parce que ce que nous cultivons et ce que nous élevons n'aurait pas été comestible.
Mais alors on faisait ça il y a très longtemps sans avoir la connaissance de l'existence de ces microbes.
Absolument, oui. En fait, ça montre vraiment cette immanence, cette omniprésence du monde microbien. On ne peut pas ne pas le croiser parce qu'il est partout. Et quand on trouve des routines, des pratiques, sans savoir ce que sont les microbes, il y a 5000 ans, des routines qui permettent de rendre quelque chose mangeable, et puis sain aussi, hein, sans s'intoxiquer avec des microbes opportunistes qui seraient toxiques ou pathogènes. Quand on trouve des routines qui sont jouables, qui sont favorables à la santé, et bien, au passage, on trouve des microbes.
Mais puisque vous parlez de civilisation, ça veut dire que ça a été différent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre,
la grande leçon,
ces routines dont vous parlez.
Oui, la grande leçon d'interaction avec les microbes, aussi bien dans l'évolution des organismes vivants, leur évolution biologique, que dans l'évolution des civilisations, c'est qu'on retombe tout le temps sur les mêmes histoires. Les Japonais fermentent le soja, fermentent le poisson, ils font des aliments qui ont les mêmes caractéristiques que notre fromage, notre pain, c'est-à-dire qu'ils sont plus digestes. En plus, comme ils sont bourrés de microbes, ces aliments, ils sont pleins de vitamines microbiennes, ce qui, au moment où on mange des choses séchées ou stockées qui ont perdu leurs vitamines, est absolument génial. Ils ont retrouvé, toutes les autres civilisations ont retrouvé également le chemin des microbes, mais pas les mêmes et pas sur les mêmes aliments. Alors du coup, quand on regarde le poisson pourri japonais, on sourit. Quand les Américains voient notre lait fermenté,
ils sourient. Notre fromage qui pue, qu'on adore.
Exact, ou le kiviak, qui est une spécialité inuite, qui consiste à mettre du poisson à fermenter à l'abri à l'intérieur d'un pingouin.
Tout
enfoui dans le sol, et puis de ressortir ça comme une gourmandise, mais bourré de vitamines, hein, à la saison où la pêche ne rend pas.
C'est très cool un microbe quand on vous entend. Pourquoi est-ce que c'est devenu une insulte, microbe ? Pourquoi il a mauvaise réputation ?
Microbe, c'est un mot qui a été inventé par un médecin déjà. Et alors là, tout est dit. C'est Diod qui, en 1878, invente ce mot qui veut dire microbie, petit vivant. Hein. C'est juste que c'est petit. Mais comme c'est tout de suite dans les mains des médecins, en fait, on disait que c'était des Janus tout à l'heure. C'est leur face pathogène qu'on va découvrir. Et fort heureusement, parce que au bilan, on va arriver à se soigner, à éviter un certain nombre de maladies en comprenant que les microbes les entraînent. Mais on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain et on s'aperçoit maintenant qu'en évitant les microbes, en ayant les mains très propres, comme dans la chanson de tout à l'heure, on a aussi éliminé ceux qui nous protègent et nous aident à vivre. Et c'est une redécouverte aujourd'hui que de dissocier le microbe de la maladie. Ça revient à le dissocier de ce cadre historique où on l'a découvert à cause de la maladie et où on n'a pas réalisé qui était derrière le fonctionnement ordinaire de pratiques alimentaires ou aussi, en tête en parler, de pratiques biologiques, de fonctions biologiques de notre organisme.
Mais ça veut dire que donc, ces microbes qui sont tout petits, ils sont partout. Combien moi j'ai de microbes, par exemple ? sur dans mon
alors,
corps
j'ai
sur
pas
mon
eu
corps.
Le temps de compter là non, mais... je suis rentré dans le studio.
Il y a Gérald Chaland mon producteur qui est en train de me tripoter.
On vous laisse
ça
une
suffit,
deux
Gérald.
Minutes pour le faire.
Là, je pense qu'il a déjà avoir un petit peu de temps pour compter jusqu'au bout.
Oui.
On compte que vous avez 10 000 milliards de cellules.
Oui.
De cellules de voilà. De cellules humaines et on compte que vous avez à peu près autant de bactéries sur votre peau et dans le tube digestif. En fait, l'essentiel sont dans le tube digestif numériquement.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a aussi 10 000 milliards de bactéries. Mais en plus, dans chacune de vos cellules, vous avez des petites parties de votre cellule qui font la respiration. C'est-à-dire, c'est elles qui transforment le sucre qu'il y a dans votre sang
d'accord.
avec l'oxygène en énergie pour bouger. Pour... C'est elles qui, en ce moment, sont en train de parler au micro, là. Et ces petites parties de la cellule qu'on appelle techniquement des mitochondries, eh bien, on a découvert que c'est des bactéries qui vivent dans les cellules des animaux, des champignons et des plantes depuis des... Bah, depuis aussi longtemps que ces organismes-là sont capables de respirer. Et ça, il y en a 1000 par cellule. Et si vous comptez celle-là, eh ben vous avez 1000 fois plus de bactéries que de cellules.
Ça veut dire que bactéries et microbes, c'est synonyme ? C'est
alors,
la même chose ?
Les microbes sont petits. Et les bactéries étant petites, elles font partie des microbes. Mais il y a d'autres choses qui sont petites. Des milliers d'autres choses. Des toutes petites algues microscopiques dans l'eau de mer. Des champignons filamenteux qu'on voit à peine à l'œil nu. Des choses comme des amibes ou des paramécies qui sont un peu plus gros que les bactéries, qui se déplacent différemment, mais qui sont toujours pas visibles. En fait, microbes, c'est une boîte pour désigner tout un tas de choses qui sont petites, mais pas toujours défavorable.
Alors ce qui est intéressant, Marc-André Sellos, c'est ce qui nous permet de... Quand on parle de nous-mêmes, évidemment, on comprend un peu mieux ces sciences. Quand on parle, par exemple, de zones humides et de zones sèches sur notre corps. Par exemple, je pense aux pieds, qui parfois sont humides et qui puent un peu dans nos chaussettes et nos baskets. Est-ce que ça, c'est la faute des microbes ? Est-ce qu'on comprend quel rôle les microbes jouent là-dedans ?
Ben oui, alors un des témoignages de la présence de microbes sur notre peau, ce sont les odeurs. Parce qu'en fait, c'est les odeurs qui se dégagent quand ils dégradent des petits morceaux de peau ou bien cette sécrétion légèrement grasse qu'on a sur la peau qu'on appelle le sébum. Et en décomposant ça, alors déjà c'est très bon pour notre peau parce que les produits un peu acides de cette décomposition rendent la peau beaucoup moins propice à des microbes opportunistes.
Donc ça la protège.
Comme quand on met des cornichons dans du vinaigre, ça protège de la décomposition le cornichon. Ben nous, notre peau est acidifiée par ces microbes. Mais, sous-produits, ils produisent des odeurs. Et sur les pieds, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des bactéries qui sont les mêmes, c'est des brévibactéries, qui sont les mêmes que sur ces fringues, vous savez, à croûte humide, un peu orange, les époisses, les minstères,
oui.
qui sentent les pieds.
Oui.
C'est QFD, quoi.
Mais c'est les mêmes, parce que dans les deux cas, c'est des bactéries qui se retrouvent confrontées à beaucoup de protéines, celles du lait, dans le fromage, ou celles de la peau de nos pieds, et qui vont émettre l'excès de soufre qui se dégage de ces protéines sous forme de méthanthiol. Alors, c'est un nom technique, mais le méthanthiol, c'est l'odeur de pied.
Ben voilà.
Et de master.
Et donc, vous nous avez dit que ça s'appelait des brévibactéries, c'est ça ?
Oui.
C'est le mot, hein, j'ai bien entendu.
Absolument, c'est brévibactéries. Alors, cela dit, ces brévibactéries, on parlait tout à l'heure de l'intérêt des aliments fermentés. Cette jolie couleur orange qu'elles ont sur le
master,
ou les pois,
c'est des carotènes.
Eh oui.
Ça veut dire que ça, c'est des précurseurs de vitamine A. Hein ? Donc, on peut sourire de l'odeur. Mais en plein hiver, manger un peu de master, c'est des vitamines.
On est bien content de les trouver.
Et les bisous, les baisers, alors, combien de microbes permettent-ils d'échanger ? La réponse dans
ça
un bref instant, hein, les
avec
curieux.
Avec ou sans la langue ?
Avec.
Ah bon.
La curiosité, c'est jusqu'à 22h sur RTL. Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Jamais seuls ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. C'est le thème de notre curiosité sur RTL et le titre du livre de notre invité, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, Marc-André Sellos. Ça ressemble à quoi, un microbe ? Présentez-nous la bestiole, là.
C'est dur, hein, parce que c'est petit. L'unité qu'utilisent les scientifiques, pour ça, c'est le micron. C'est le millième de millimètre. C'est très petit. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut en mettre partout, sur un organisme, dans une plante, sur la peau d'un homme, sans que ça se voit trop,
eh oui.
parce qu'ils sont vraiment minuscules. Alors, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont petits et ronds. Bon. Il y en a qui sont en forme de fins filaments, allongés, éventuellement ramifiés en réseau. Ça, c'est plutôt les champignons. Leurs formes sont très variées, mais en fait, elles le sont beaucoup moins que leur façon de vivre. Ce qui est spécifique aux microbes et qui est difficile à raconter, il est vrai, c'est qu'ils vivent de tas de façons différentes que nous n'imaginons pas. Là où les animaux respirent, ou bien où les plantes font la photosynthèse et fabriquent leur sucre, finalement avec la lumière solaire, les microbes, ils ont des dizaines de façons de vivre. Songez par exemple que certains font leurs protéines à partir de l'azote atmosphérique. que d'autres vivre en faisant réagir de l'oxygène avec du fer ou de l'oxygène avec du soufre. C'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer.
Ils se reproduisent comment, les microbes ?
Ben, d'abord, ils se reproduisent vite. Très souvent, il faut juste une demi-heure à quelques heures pour qu'une cellule se divise en deux. Et puis, si ce sont des organismes faits d'une seule cellule, eh bien, ma foi, on en a deux, ça y est, ils se sont reproduits en l'espace même pas d'une heure. Donc, ils se divisent. Ils ont aussi des moyens de se reproduire un peu plus compliqués, notamment des formes d'attente, mais qui peuvent patienter pendant des millénaires dans des sédiments, dans les sols. Mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est que ils sont en nous. Et quelque part, nous sommes simplement des immeubles pour ces microbes. Et comme ça fait des millions, des centaines de millions d'années que ça dure, eh bien, ils ont fini par contribuer à certaines de nos fonctions. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'on fait. On parlait de la respiration tout à l'heure, qui sont en fait des fonctions que les microbes nous ont amenées. Et donc, il y a des choses qu'on fait qui font partie de cette grande diversité des fonctions qui sont
parce
en fait celles des microbes.
Parce qu'un microbe respire.
Alors, ils peuvent faire tout un tas de choses, mais certains, effectivement, respirent. Et c'est cette respiration, cette capacité de faire l'énergie à partir d'un peu d'oxygène et puis d'un peu de sucre, qu'ont amené certains microbes dans les cellules de très lointains ancêtres, sans doute il y a 1 ou 2 milliards d'années, des ancêtres qui, très lointains, qui ont finalement donné les plantes, les champignons et les animaux.
On parlait de se laver les mains tout à l'heure. Est-ce qu'on se lave trop les mains ?
Alors, je sais pas vous, hein. Moi j'essaie de les laver avant de manger ou avant de toucher une plaie. Mais...
En sortant des toilettes par exemple aussi ?
Oui, mais après des contacts très contaminants ou avant des moments où on doit avoir les mains très propres. Se laver trop souvent les mains, c'est enlever ce film de bactéries qu'on a sur la peau. Notamment sur les mains, on en a quand même 1 à 10 millions par centimètre carré de peau. Et là, ils ont un rôle. On évoquait tout à l'heure leur fonctionnement sur la peau qui acidifie un petit peu. Certains sont producteurs d'antibiotiques, par exemple. Et en fait, ils occupent un terrain où ils se nourrissent, qui est à la fois leur habitat et leur garde-manger. Évidemment, ils le défendent. Ils le défendent en fabriquant des antibiotiques, en le rendant inhospitalier pour les autres, en y capturant les ressources de façon à ce que d'autres ne s'installent pas. Et en cela, ils constituent un écran contre des maladies qui pourraient s'installer.
Ça veut dire que quand on nous conseille, par exemple, de se laver le plus souvent les mains avec du gel hydroalcoolique, du gel antibactérien, c'est une erreur. On croit se protéger des mauvais microbes, mais en fait, on perd la barrière de protection ?
Alors allons-y dans le très sale. Nos ancêtres ne se lavaient pas. Ils ne se lavaient pas. Ça veut dire que pendant des millions d'années, nous avons évolué sans lavage. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se laver. Bien au contraire, on gagne beaucoup en se lavant sur tout un tas de maladies. Mais si on se lave trop, on commence à évacuer nos alliés naturels, ces alliés naturels sur lesquels nos ancêtres, qui ne se lavaient pas, ont reposé pendant des millions d'années d'évolution. Et il y a plus, si vous lavez trop souvent, la peau, pour compenser l'évacuation du sébum, sécrète plus de sébum. Du coup, vous êtes plus vite colonisé par des microbes et vous êtes plus malodorant en peu de temps. Et c'est un cercle vicieux où, en gros, vous êtes en train de vous décaper la peau de ces alliés naturels. Et aujourd'hui, un certain nombre de bactéricides ont été interdits aux États-Unis dans les savons parce qu'on sait très bien que pas de bactéries, c'est moins bon que ce que moi j'appelle dans le livre la saleté propre, c'est-à-dire des contaminants ordinaires qui font écran à la maladie et aux atteintes de la peau dans le cas qui nous intéresse.
Même quand on vit dans une grande ville avec beaucoup de pollution.
Vous savez, aujourd'hui, vous et moi, nous partageons beaucoup moins de bactéries que ne partagent deux membres d'une tribu amazonienne qui, eux, se lavent sans doute moins et échangent beaucoup plus, ont plus de contacts corporels. Aujourd'hui, nous sommes vraiment devenus des îles inabordables pour les microbes. Parce qu'on se lave, parce qu'on mange des choses qui sont très peu colonisées, parce qu'on désinfecte tout dans notre environnement. Et du coup, les microbes circulent peu d'individu en individu. Et du coup, aujourd'hui, ils commencent de ne plus remplir les fonctions protectrices habituelles.
Est-ce qu'ils sont heureux quand même, les microbes, dans notre bouche, par exemple ?
Ah, le baiser,
parce
on y vient.
Parce qu'on se lave les dents, certes, oui, heureusement, mais quand on s'embrasse, par exemple, est-ce qu'on échange des microbes ? Est-ce que la bouche est vraiment colonisée par ces microbes ?
Oui, alors elle est colonisée, il y a beaucoup d'espèces dans la bouche. En plus, la bouche est très ouverte sur l'environnement, donc elle reçoit régulièrement des bactéries. On compte presque 1 millier d'espèces dans la cavité buccale, et quand on va sur le petit film de bactéries, cette fameuse plaque dentaire, qu'on lave de façon forcenée.
C'est où ? C'est entre la gencive ? D'accord, sur la dent.
Voilà. Là, on arrive au milieu d'espèces. Et si on va vraiment, alors, au creux de la gencive, au creux du lien de la gencive et de la dent, on a 1300 espèces différentes. C'est des endroits où il y a beaucoup de bactéries, effectivement. Alors, dans un French Kiss, on raconte souvent qu'on échange 10 millions de bactéries avec son partenaire. On échange aussi plus, j'imagine. Peut-être aussi quelques sentiments. Bon. Mais,
ça arrive.
ça arrive. Mais effectivement, la bouche est très, très colonisée. Et ces microbes ont, là encore, des rôles protecteurs. Ils ont même des rôles dans la perception des arômes. Les arômes de Sauvignon, c'est un vin qui a, vous savez, les Sauvignons ou les Cabernet Sauvignon, des espèces d'arômes qui rappellent ceux un petit peu de poivron vert. Et les arômes de poivron vert, c'est pareil, en fait, ce sont des produits transformés à partir de l'aliment par les bactéries qui font l'arôme spécifique du Sauvignon quand on boit le vin ou du poivron vert.
Et quelqu'un qui a mauvaise haleine, alors ça vient d'où?
Bah là, on retrouve ce côté Janus hein, des microbes qui sont capables du pire comme du meilleur. Entre les papilles, derrière, enfin, vers le fond de la langue, il y a des endroits où se développent des bactéries qui, faute d'avoir assez d'oxygène, commencent à fermenter et émettre des produits putrides. Et effectivement, dans les brossages qu'on peut recommander, il y a celui de la plaque dentaire, qui, si elle s'épaissit, peut provoquer la carie, et celle du dos de la langue. Alors moi, je ne suis pas dentiste, hein, mais enfin, il y a effectivement des endroits comme
donc
ça.
C'est sous la langue.
C'est le dos de la langue, c'est la langue vers le fond.
Ah non, tout au fond de la langue.
Voilà.
Il faut brosser tout le fond de la langue.
Oui, parce que là, la langue est peu frottée par le reste de la bouche, vers le fond. Mmh. Et du coup, là, se développent des dépôts assez importants. Et...
Allez au travail. Brossez-vous le fond de la langue. Si vous
et appelez-nous au 3210 pour nous dire comment ça se passe.
Et on va parler des animaux un petit peu, parce qu'eux aussi, évidemment, ils ont plein de microbes.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Bienvenue dans le monde invisible mais très peuplé des microbes. Ils nous collent à la peau et assurent notre survie. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. On se fait minuscule pour comprendre comment ils vivent et à quoi ils servent en compagnie de notre invité, le professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, Marc-André Sellos. Vous avez vraiment envie de porter un message sur ces microbes qu'on essaye d'éliminer en se lavant fort les mains, en se lavant fort les dents. Bon, ça c'est bien comme de se brosser les dents. Et pourtant, ces microbes, ils sont indispensables parce qu'ils fabriquent notre système immunitaire et c'est ça qui nous tient vivants finalement.
Alors, au-delà des rôles qu'on a évoqués, où ils nous aident à digérer, ils nous aident à nous protéger par leur interaction directe, ils sont, dans l'enfance, on s'en rend compte maintenant, des agents du développement et de la croissance du jeune enfant. Et en particulier, leur présence aide le système immunitaire à devenir un système immunitaire mûr, adulte. En fait, aujourd'hui, on a effectivement, en se lavant, éliminé toutes les maladies infectieuses. Mais on voit monter, depuis le début du XXe siècle, des maladies nouvelles. Si on regarde au XIXe, on les connaissait à peine, comme l'allergie, comme les maladies auto-immunitaires, où le système immunitaire commence à attaquer l'organisme et à détruire la thyroïde ou les articulations. Ouais. En fait, on s'aperçoit que le système immunitaire ne fonctionne pas normalement, et on se rend compte aujourd'hui que c'est l'hyperhygiénisme qui nous entoure, qui fait que l'enfant est mis trop tard en contact avec une diversité microbienne suffisante à assurer un développement normal.
Par exemple, moi j'ai des enfants qui sont très grands, qui ont 24 et 21 ans. Quand ils étaient petits, on stérilisait les biberons.
Mais voilà, en fait, c'était un réflexe, parce que c'est vrai que ça évite qu'ils attrapent des diarrhées
ou qu'ils soient
malades. Mais sur le long terme, en fait, on les prive d'une stimulation finalement qui est importante dans leur développement, dans les étapes de leur développement. À la naissance, les bactéries arrivent, et les levures aussi qui colonisent notre organisme, mais elles induisent un développement.
Et pendant qu'on écoutait Vianney, vous nous disiez qu'il y avait eu des expériences qui avaient été faites sur des souris sans bactéries.
Alors, oui.
Qu'est-ce que ça donne, ça?
On n'arrive pas à faire des hommes sans bactéries. On va pas mettre des gens sous bulle. Bon, par contre, on sait élever depuis des générations des souris sans bactéries. Et on s'aperçoit qu'elles sont complètement différentes. Leur comportement est différent. Elles sont, par exemple, beaucoup moins timides que des souris normales. Elles ont des gros problèmes de mémorisation. Et puis leur cerveau n'est pas du tout connecté, câblé, ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et par contre, quand on prend une petite souris exénique et qu'on lui remet des microbes, et ben ça devient un adulte normal, un peu timide, plus capable de mémorisation. Et quand on fait des tranches fines dans son cerveau, on s'aperçoit qu'il s'est développé normalement. Donc on voit que cette aide au développement dépasse le système immunitaire. Toutes nos fonctions sont co-construites avec une présence microbienne qui envoie des messages.
Alors ça veut dire qu'on doit faire quoi concrètement? Parce qu'on a envie de s'améliorer, Marc-André Sellos, on a envie d'exposer nos enfants plutôt à ces microbes. Ça veut dire qu'on stérilise moins, le lait maternel est sans doute un bon vecteur aussi de ce partage des microbes.
Moi je ne suis pas médecin, mais je pense qu'une exposition raisonnables aux microbes, c'est une chose. On commence aussi à voir arriver des probiotiques. Vous savez, il y a une chose amusante, c'est que la première inoculation de l'enfant à sa naissance, ce sont des microbes du vagin maternel, des lactobacilles.
Le microbiote, c'est ça ?
C'est ce microbiote qui commence à ce moment-là. Et quand on est par césarienne, on n'a pas ce microbiote. Et aujourd'hui, il y a des expériences qui sont en cours pour voir si, en donnant au nouveau-né des frottis vaginales de la mère, on ne peut pas améliorer sa santé. Et ça marche, mais il y a mieux. Dans le lait de la mère, il y a un ingrédient qui n'est pas digeste pour l'enfant et qui est très abondant, puisque c'est ce qui est le plus abondant après les sucres et les lipides. C'est des polysaccharides, pour être technique, très bizarre parce que l'enfant ne les digère pas. Et autant vous dire qu'il n'y en a pas dans les laits maternisés, du coup. Et en fait, on a découvert que ça, c'est des aliments qui vont nourrir les bactéries les plus favorables au tube digestif de l'enfant, à sa digestion et à sa protection, et qui vont... La mère lègue deux choses. Un premier inoculum bactérien et de quoi nourrir ces bactéries dans le lait avec ces polysaccharides qui vont aider les meilleures des bactéries en termes de développement à coloniser l'enfant. Ça veut dire qu'on est construit avec eux puisque, vous voyez, l'allaitement, c'est un truc super intime pour l'homme. Et bien, en fait, les microbes sont là déjà.
Marc-André Sellos, vous publiez Jamais seul aux éditions Actes Sud. Et alors, vous parlez évidemment beaucoup de nous, les humains, mais aussi des plantes et des animaux, et notamment de la vache. La vache qui est un formidable nid à microbes, dites-vous. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que tous les animaux sont des nids à microbes.
D'accord,
mais celui-là, il est
autres.
Quand même. Oui. Oui, mais celui-là, il est quand même marrant. Tout le monde pense que la vache mange de l'herbe. Oui. Or, en fait, elle ingère de l'herbe. Mais si vous avez la curiosité de regarder dans une bouse, vous verrez qu'il y a des petits morceaux d'herbe et si on fait l'analyse chimique, ils ne sont pas dégradés. Que se passe-t-il ? En fait, elle a une très grande poche digestive, qu'on appelle le rumen, dans laquelle elle entasse du liquide, ces végétaux qu'elle ingère, et où se développent des bactéries, des champignons et d'autres microbes un peu plus gros qu'on appelle des protozoaires. Tout ça fermente, régulièrement elle régurgite pour mâcher ça, fragmenter les végétaux, mélanger un peu d'eau, enduire de salive qui contient notamment les produits qui sont normalement dans l'urine, donc de l'azote, du phosphate. Tout ça c'est un engrais pour tous ces microbes. Et puis, elle filtre régulièrement des petites particules de ce rumen. Là partent des petites particules de plantes qui ne seront plus digérées et des petits microbes qui, eux, vont être digérés. Ce qu'elle digère, elle, c'est les microbes qu'elle élève dans son rumen. Et c'est comme ça qu'elle a accès à l'herbe, qu'elle est infoutue de digérer autrement. Donc finalement, elle dépend complètement...
Comme une cuisine interne, pardon, je vous interromps. Je pensais à ça, quoi.
Oui, ou un petit peu comme quand si vous faisiez votre choucroute à l'intérieur du tube. Non, mais on retrouve finalement que nos civilisations n'ont rien inventé. Elles ont refait ce que la nature fait par ailleurs. Et ainsi, la vache a réussi à manger l'immangeable pour ses ancêtres, l'herbe.
Incroyable. La vache qui rejette certains gaz, et on la montre du doigt d'ailleurs, on dit qu'elle est responsable de pollution atmosphérique. C'est juste ou pas ça ? Qu'est-ce qu'elle rejette d'ailleurs ?
Alors, en fait, elle peut dire qu'elle y est pour rien. Pour le coup, ce sont ces microbes qui, en fermentant, vont émettre des gaz. D'ailleurs, certains de ces gaz sont récupérés par la vache. C'est ceux qui donnent cette odeur assez forte aux vaches et au lait fraîchement trait. Et puis, il y a d'autres gaz qui vont effectivement sortir. Alors, elle en fait 1000 litres par jour de gaz. Hein,
c'est bien.
Grosso modo. Et là-dessus, il y a une bonne moitié, c'est du méthane. Effectivement, elle est montrée du doigt parce que l'extension du cheptel bovin aujourd'hui, ça induit aussi l'extension des émissions de méthane. Mais ça, voilà, c'est un problème annexe qu'on est en train, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à l'INRA qui s'occupent de voir comment on peut changer l'alimentation de la vache. Et alors, ils ont trouvé des solutions pour qu'elle fasse moins de méthane. Ils lui donnent notamment plus de céréales et de soja. Mais comme, par ailleurs, pour faire des céréales et du soja, c'est une agriculture mécanisée. Ça contribue aussi à l'effet de serre, donc...
On s'en sort pas.
Voilà. Elle est montrée du doigt parce qu'elle fait du méthane qui contribue à l'effet de serre, et les solutions sont aussi productrices de gaz à effet de serre. Alors, on est encore loin d'avoir résolu ce problème.
Et les petits lapins qui dévorent leurs crottes.
Ils sont moins mignons.
Ça vous rebute. Pourtant, c'est bon pour leur santé. On vous raconte tout. Encore une histoire de microbes, les curieux.
Et on écoute Lou Reed sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ils sont tout, mais alors tout petits, ils ne font pas de bruit. Mais quel boulot ils abattent ! On vous dévoile le quotidien de nos microbes sur RTL avec Marc-André Sellos qui publie Jamais seul aux éditions Actes Sud. Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. On va parler des lapins et de leurs excréments, de leurs petites crottes. Pourquoi mangent-ils leurs crottes, les lapins ?
Alors moi, je viens vous dire, mais je voudrais faire une parenthèse avant.
Allez-y.
Les gens vont peut-être avoir l'impression qu'on est hyper scato, qu'on est dans le dégueulasse.
Non, pas du tout.
Et quelque part, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur une chose. Cette négation du monde microbien, de son développement, c'est, on l'a vu hein, avec le lait qui est fait pour élever des bactéries, c'est une négation de nous-mêmes, au fond. C'est une refus de notre part d'animalité ou de notre part de naturel. Et là, il va falloir revenir là-dessus pour, parce qu'il y a des moyens pour opérer sur notre santé, sur notre alimentation, des moyens énormes. Il faut vraiment commencer à explorer ça. Alors, le lapin, lui.
Bon, on va
lui,
pas se mettre à manger nos crottes quand même, rassurez-nous.
Alors nous, non, parce que nous, non, au contraire, nous...
Parce que ça c'était ça ma question.
Non, non, je suis pas du tout en train
mais
de
je sais bien,
faire
je
ça.
Sais bien.
Loin s'en faut. En fait, nous, on fonctionne pas comme ça. Mais le lapin, en fait, il a des microbes dans son tube digestif, dans son intestin, qui l'aident d'ailleurs à digérer. Et ces microbes font quelques vitamines, l'aident un peu à digérer, mais la matière qui est dans le microbe, elle est perdue. Elle va partir avec les crottes, comme chez nous.
Oui.
Ou dans nos selles, par exemple, 60% du volume, c'est des microbes. Alors, ce qui se passe chez le lapin, c'est qu'il a une poche du tube digestif qu'on appelle le cécum, où il y a un système d'essorage qui va pousser un jus enrichi en bactéries du tube digestif. Et il fait deux crottes. La crotte ordinaire, ronde, que vous pouvez trouver, où il y a des débris de son alimentation.
Oui, la toute sèche là qu'on voit traîner,
ouais.
C'est ça ?
Ouais. Exactement. Ça, pas intéressant, c'est des restes de végétaux, il n'y a rien dedans.
Donc il n'y touche pas ?
Ah, ça non. Par contre, il fait des petites crottes molles, mais celles-là, il les récupère tout de suite, alors on ne les voit jamais.
Eh oui.
Mais il les mange tout de suite, et ces crottes molles, en fait, c'est quand il expulse le contenu de ce cécum, de cette poche où il a stocké, essoré du reste de ses intestins, ses bactéries. Et ces crottes-là sont hyper riches en bactéries, hyper riches en protéines, beaucoup plus riches en protéines, par exemple, que les plantes qu'il mange, parce que ça s'est reconcentré. Et quand on empêche un lapin, en lui mettant une énorme collerette, qui l'empêche d'aller chercher les crottes sur l'anus, puisque c'est là qu'il se nourrit, et ben en fait, il crève de manque de vitamines, d'avitaminose. Parce qu'en fait, les lapins sont dépendants pour une partie de leur apport en acides aminés, en protéines et en vitamines, de ces crottes qu'ils élèvent à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors cette fois-ci, à l'inverse de la vache qui élevait ça dans une énorme poche du tube digestif, ils les élèvent dans l'intestin, simplement.
Ils sont nombreux, ces animaux, à manger leurs crottes, à se nourrir comme ça de ces microbes hyper vitaminés.
Ben en fait, ça a émergé plusieurs fois dans l'évolution parce que c'est un bon recyclage des déchets. Et quelque part, vous voyez, si quelqu'un fronce le nez en ce moment devant son transistor, je pense qu'il faut se poser la question, ou devant son ordinateur, je pense qu'il faut se poser la question si on n'a pas perdu quelque chose par rapport aux déchets et si finalement la valeur noble du déchet n'est pas à reprendre en considération. Ben, en l'occurrence, certaines crottes du lapin, c'est super noble pour lui.
Mais on les appelle comment ces animaux des scatophages des, c'est quoi
alors,
le terme
on les appelle des sécotrophes, oui, parce qu'ils mangent des crottes issues du cécum. Et ça, c'est apparu à plusieurs reprises dans l'évolution parce que c'est un moyen très efficace de récupérer la valeur alimentaire des microbes qui sont bien trop loin dans le tube digestif pour être encore digérés.
Et pour alors, boucler l'histoire
il y a des oiseaux qui font ça, il y a tout un tas de rongeurs, bien sûr. Même jusqu'à un certain point, les jeunes chevaux font ça.
Alors pourquoi nous, les hommes, l'humain, ne fait pas ça ? Parce qu'on n'a pas ce cécum comme a le lapin pour extraire ce jus vitaminé ? Nos selles sont vraiment, ne servent plus à rien.
Non, une autre solution, c'est d'avoir une nourriture très très riche et très variée, d'accord, qui fait qu'on n'aura pas besoin de ce complément alimentaire que représentent les bactéries du tube digestif.
Mmh.
Et nous, on est plutôt une espèce qui a une capacité à recruter des aliments variés dans l'environnement. Donc, on n'a pas besoin de cet apport. Par contre, le lapin qui mange de l'herbe, qui est un aliment notoirement déficient en certains acides aminés, en certaines vitamines, lui, il faut qu'il complète. Mais nous sommes omnivores, donc on arrive à butiner à plusieurs sources l'ensemble de ce qui nous est nécessaire. Et donc, on n'a pas besoin de compléments vitaminiques, qui, dans le cas du lapin ou de certains autres animaux, sont en fait des bactéries.
Si on fait un peu de science-fiction, si les microbes disparaissaient sur Terre, qu'est-ce qui se passerait ? Il n'y aurait plus de vie ?
Alors, ils ne disparaîtront pas.
Ils seront toujours là, quoi.
Oui. Nous survivrons.
Ils font tellement de choses. Ouais. Donc, c'est une fiction totale. Mais d'abord, nous, on serait nettoyés, puisqu'on est fait de microbes, on l'a dit, jusqu'au tréfonds de nos cellules.
Ouais.
Et puis, de toute façon, le monde ne serait plus ce qu'il serait, parce que ce que le microbiologiste voit, mais que les autres ne voient pas, c'est que nous sommes englués dans une pâte microbienne, le monde est microbien. On dit souvent que si on supprimait la Terre en laissant les microbes, on en verrait encore la silhouette. Et on verrait la mienne, avec mon film de microbes sur la peau,
ouais.
Et de façon plus marquée, on discernerait mon tube digestif. Et on verrait aussi les plantes qui sont bourrées de microbes. Et les silhouettes seraient conservées si on ne laissait sur Terre que les microbes.
Voilà, on va terminer là-dessus.
Merci beaucoup.
C'était fascinant.
Ah oui,
merci,
c'est génial.
Merci
Marc-André Sellos. Jamais seuls ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations aux éditions Actes Sud. Beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce très beau livre. On a hâte de vous retrouver au micro de la curiosité. Vous reviendrez ?
Volontiers.
Avec grand plaisir. Vous êtes déjà réinvité. C'est la fin de cette émission sur RTL. Vous pouvez nous réécouter en podcast parce que des pépites, on les cherche.
Oui, et puis profitez-en pour échanger des microbes.
Il y en a vraiment beaucoup.
Serrez-vous les mains, embrassez-vous avec la langue, bref.
Vous pouvez nous réécouter sur RTL.fr.
Vous écoutez RTL.